Bonjour à chacun, ça fait plaisir d'être de nouveau parmi nous. Pour ceux qui viennent là pour la première fois, on était en vacances, enfin 2 semaines en camp et 2 semaines en vacances, donc ça fait 4 semaines qu'on n'était pas ici pour le culte et ça fait vraiment du bien de vous retrouver, du bien d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est un petit peu notre culte de rentrée, c'est le premier culte de septembre. Moi, c'est un moment, ce temps de septembre, que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'on est dans une société où l'année bascule entre le 31 décembre et le 1er janvier. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose, hein, ce moment-là du changement de l'année civile. On a vraiment ce sentiment plutôt au mois de septembre de commencer quelque chose de nouveau. Les enfants, les étudiants, les parents quitte ce temps un peu spécial, ces 2 mois de juillet et août. Pour certains, ça a été des vacances, pour d'autres, ça a été du travail. Mais même ceux qui ont travaillé pendant ces 2 mois se sont bien rendus compte que toute la société genevoise vit un petit peu au ralenti pendant ces 2 mois de juillet et d'août. Et puis, tout d'un coup, on arrive en septembre, et là, c'est le redémarrage. On a toutes les activités qui repartent. C'est un petit peu comme si voilà, la vie de la société reprend à ce moment du mois de septembre. Et on s'est dit avec les anciens, avec les responsables d'église, on s'est dit que c'était le bon moment pour proposer des choses. Proposer déjà quelques changements. Vous verrez, on va en parler pendant les semaines qui viennent, mais peut-être un des changements, c'est qu'on s'est dit qu'on avait envie de mettre plus d'accent sur la vie en petits groupes au sein de notre église. Et on va proposer le démarrage de plusieurs groupes de maisons à partir du mois d'octobre. Si ça vous intéresse déjà, il y a déjà sur le comptoir là derrière des feuilles si vous voulez vous inscrire pour l'un ou l'autre groupe de maison. Et pendant tout le mois de septembre, vous pourrez réfléchir et vous inscrire pour l'un ou l'autre groupe de maison. À partir du mois d'octobre, on va démarrer ces groupes et on va lire l'épître de Paul aux Philippiens ensemble. Et on veut vraiment grandir, non seulement par le culte et par les enseignements qui sont donnés lors du culte, mais aussi grandir en plus petits groupes où la parole peut être donnée à chacun, où chacun peut échanger avec les autres et on peut grandir ensemble. Ça, c'est un changement qu'on veut proposer pour cette année. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on s'est dit que c'était une bonne chose pour ce début d'année, ce démarrage d'année, de repasser ensemble par notre vision. L'année passée, on a parlé de la vision d'église. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Comment est-ce qu'on veut progresser en tant qu'Église ? Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, mais l'année passée, on a vraiment travaillé sur ce sujet-là. Et on s'est dit qu'on avait 4 axes de progression pour cette année et pour les années prochaines. On s'est dit qu'il y avait 4 dimanches disponibles au mois de septembre. C'était l'occasion de, chaque dimanche, voir ensemble un de ces axes, un de ces domaines dans lesquels on veut progresser. Magnifique. Donc, notre vision qu'on avait écrite il y a déjà quelques années, c'était celle-ci, un cœur pour l'évangile au cœur de Genève. En tant qu'église Action biblique de la Servette, on veut être ceci, on veut être un cœur pour l'évangile. Ça veut dire qu'on veut grandir chacun pour nous-mêmes dans notre compréhension de l'évangile, l'évangile étant le message de la Bible. Et puis, on veut être aussi au cœur de Genève. Ça veut dire qu'on veut rayonner, on veut que ce message de l'évangile soit connu partout à Genève. Mais ça, c'est joli, bon voilà, c'est ce qu'on veut faire, mais comment on veut progresser vers ce but-là ? On avait établi 4 axes ensemble. Le premier, c'était l'accueil, et le deuxième, c'était la vie intérieure, l'édification et la croissance. Et du coup, ce dimanche et les 3 dimanches prochains, on vous propose de passer au travers de ces 3 thèmes, et on va lire quelques textes bibliques, on va essayer de réfléchir ensemble à comment on veut vivre ça, comment on veut progresser dans ces choses-là. Donc ce matin, on va parler du premier de ces thèmes, l'accueil. L'accueil, c'est assez joli, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ça passe bien, on veut tous être une église accueillante, une église où les gens se sentent à l'aise, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on le vit vraiment ? Est-ce que les gens qui débarquent dans notre église se sentent accueillis. Il y a plusieurs personnes ce matin qui sont là pour la première fois. J'espère que vous vous sentez accueillis. En tout cas, soyez-le. Mais comment faire pour progresser ? Comment faire pour que chacun, chacune, vraiment, se sente le bienvenu ? Est-ce qu'on est accueillant envers vraiment tout le monde ? Est-ce que Chaque personne, quel que soit son arrière-plan, peut venir ici, peut comprendre ce qui se passe et peut se sentir bien, se sentir accueilli. Bien sûr, on peut dire qu'on on accueille les gens, mais on aspire à progresser, on aspire à s'améliorer. Et on va voir un petit peu quelques versets de la Bible qui nous parlent de ce sujet-là. On va lire tout de suite un texte qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Paul, un texte qu'il a envoyé dans une lettre. C'est un extrait de cette lettre qu'il a envoyée à l'église d'Éphèse. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez lire, chercher déjà ce passage. Ça se trouve dans Éphésiens au chapitre 2 à partir du verset 11. Et il a écrit à cette église d'Éphèse et plus probablement même à l'église et à d'autres églises qui étaient autour de cette église d'Éphèse. Paul était à ce moment-là en prison et il écrit à cette église pour les encourager. Il leur écrit, enfin si vous voulez lire le début, c'est vraiment un texte qui est extrêmement beau. Il leur parle de toutes les bénédictions que nous recevons en tant que chrétiens. Si un jour vous êtes déprimé dans votre vie chrétienne, lisez Éphésiens chapitre 1. Alors là, il y a de quoi être motivé. Hein. On voit toutes les bénédictions, toute la richesse que Dieu nous accorde au moment où nous devenons chrétiens. Et puis ensuite, chapitre 2, Paul, en quelque sorte, il applique toutes ces bénédictions aux Éphésiens. Il leur dit, mais toutes ces bénédictions, vous les avez reçues, vous aussi. Vous avez cru à la mort de Jésus-Christ. Vous avez, par sa mort, reçu le pardon de vos péchés. Vous êtes vu par Dieu comme saint. Vous avez cru à sa résurrection. Et du coup, vous aurez une part dans cette vie éternelle. Vous allez, vous aussi, ressusciter. Toutes les bénédictions dont Paul a parlé au chapitre 1, elles leur sont attribuées à eux, les Éphésiens. Et puis on arrive dans la deuxième partie du chapitre 2. Avec ce texte. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez simplement lire le texte ici. Sinon, vous pouvez le suivre dans votre Bible. Ce texte, il commence par les mots « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Il y a un lien, vous voyez. Tout ce que Paul a dit précédemment, cette belle image tellement riche de l'Évangile que Paul a écrite au chapitre 1 et au début du chapitre 2, eh bien, voilà quelle en est la conséquence. C'est pourquoi. Voici ce que vous devez vivre en tant que chrétien. Je lis le texte. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu apporter la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. Ce texte, il nous parle de ce sujet dont on va parler aujourd'hui, de l'accueil, et on va voir un petit peu comment ce texte en parle. Je vais Simplement pour nous aider, c'est un texte qui est hyper riche, hein, vous avez sans doute remarqué. Il y a peut-être des mots que vous ne comprenez pas dans ce texte. Et je vais juste essayer en quelques minutes de l'expliquer pour qu'on puisse tous en avoir une vision un peu plus claire. Et je vais faire trois remarques sur ce texte d'Éphésiens 2, 11 à 22. Première remarque, nous étions éloignés, nous sommes rapprochés. Ça, c'est les versets 11 à 13. Nous étions éloignés et nous sommes rapprochés. Vous avez vu ? On était en tant que non-juifs. Bien sûr, Paul s'adresse aux non-juifs d'Éphèse à ce moment-là, mais on peut s'identifier à eux en tant que non-juifs. Et même si vous avez peut-être des origines juives, on est quand même impacté par ce texte. En tant que ne faisant pas partie de la famille de Dieu, nous étions éloignés. On était étrangers aux alliances de la promesse. On était sans droit de cité en Israël. On ne faisait pas partie de cette famille, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. On était séparés de Dieu, on était incapables de nous approcher de lui. Mais nous avons été rapprochés. Vous avez vu, hein, c'est au verset 13. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Le fossé infranchissable de notre péché, ce fossé qui nous séparait de Dieu pour toujours, sans aucune chance de nous permettre d'avoir accès à lui, ce fossé a été comblé. Christ est venu. Par son sang, il nous donne un accès. Il nous permet de nous approcher du Père. Et nous qui étions éloignés, nous sommes rapprochés. Deuxième remarque, nous étions opposés, nous sommes unis. Ça, c'est les versets 14 à 18. On était opposés. En fait, on était éloignés et nous sommes rapprochés. Bah, non seulement ça, on a été rapprochés de Dieu, ça c'est ce que le texte dit, mais le texte nous montre aussi qu'en plus d'être rapprochés de Dieu, on est rapprochés. Le texte dit que les juifs et les non-juifs sont rapprochés, mais on pourrait dire que tout être humain est rapproché. En s'approchant de Dieu, on devient rapprochés les uns les autres. Et puis la deuxième partie, donc, nous étions opposés et nous sommes unis. Je trouve que dans cette partie, Paul utilise des mots hyper forts. Il a renversé le mur qui les séparait, la haine. Vous imaginez cette haine qui existait entre, bien sûr, entre les juifs et les non-juifs. Mais on pourrait étendre ça en disant que c'est la haine qui existe entre les hommes de manière générale. Cette haine, ce mur a été renversé. La haine n'existe plus. La haine a été remplacée par la paix. Et autant Paul utilise des mots forts pour décrire notre état antérieur, autant Paul utilise des mots encore plus forts pour décrire notre état actuel en tant que chrétien. Vous avez vu ? Il a fait des deux un seul homme nouveau. Waouh ! Ça, c'est quand même une image forte, hein ? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est comme un seul homme nouveau. Je ne sais pas si vous, votre propre corps, vous le sentez désuni. Probablement pas. On n'a pas l'impression que notre main et notre pied sont désunis. On a bien l'impression qu'ils font les deux parties de nous-mêmes, n'est-ce pas ? C'est une image quand même extrêmement intime, extrêmement forte, extrêmement profonde. On est comme cette main et ce pied. On est unis en tant que chrétien au même point que cette main et ce pied peuvent être unis. On sent bien en nous-mêmes ce que ça signifie, hein, dans notre propre corps. Il a fait des deux un seul, un homme nouveau, un seul corps. Tout ce qui nous séparait a été comblé. Et juifs et non-juifs, mais tous les chrétiens du monde, de tous les peuples, sont un, une seule personne. Vous qui étiez loin et ceux qui sont près, il a fait de nous un seul corps. On était opposés, on avait de la haine. Et Dieu nous a unis. Ça, c'était la deuxième remarque. Et puis, troisième remarque, ça, c'est les derniers versets, hein, les versets 19 à 22. Nous étions étrangers et nous sommes citoyens, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. En fait, Paul, ici, de nouveau, il utilise des images très fortes, trois images. L'image de la patrie, en disant qu'on est concitoyens, l'image de la famille et l'image de l'édifice. Vous avez remarqué ? C'est trois images fortes, hein, et on peut réfléchir une seconde à ces trois images. L'image de la patrie. Parfois, on dit, bon, voilà, moi, je suis suisse, ou moi, je suis français, ou moi, je ne sais quelle nationalité est votre nationalité d'origine. Mais en fait, ça influence profondément notre identité. On ne dit pas juste que moi j'habite en Suisse, ou que moi je viens de là, ou que ma famille vient de là. On dit vraiment je suis de tel ou de tel endroit. C'est vraiment un peu notre identité, nos racines. C'est de là d'où nous venons. J'ai un petit témoignage personnel à donner par rapport à ça. Moi, je suis né suisse. Et puis, il y a à peu près un an et demi, par mariage, ma femme, elle est franco-suisse de naissance, elle. Et il y a à peu près un an et demi, par mariage, j'ai acquis la nationalité française. J'ai fait une demande auprès du consulat du consulat de France à Genève. Puis voilà, il y a eu une procédure. Et puis, après quelques mois, je suis devenu français. Et du coup, maintenant, mon identité vraiment a changé. Je suis non plus suisse, mais franco-suisse. J'ai cette double nationalité. Et ça a quand même un impact réel. De sens que si un jour, pour une raison ou une autre, j'étais dans le besoin, le gouvernement français, enfin, ou l'État français, a pris une sorte d'engagement envers moi, n'est-ce pas? Je fais partie de la famille. Je fais partie de ce peuple-là. Et il y a quelque chose d'indéboulonnable, d'incassable. Je suis de ce peuple-là. C'est un changement quand même profond. Deuxième image, l'image de la famille. On est concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Là aussi, une image hyper forte. Pour vous qui êtes mariés, vous avez vécu ça, hein, le moment où on fonde une nouvelle famille, le moment où on quitte son cercle familial d'origine pour fonder un nouveau cercle familial. Et je pense qu'encore plus pour les épouses, c'est quelque chose qu'elles peuvent ressentir, parce que jusqu'à votre nom, enfin je sais que maintenant on ne change plus forcément de nom, hein, mais beaucoup de gens quand même changent de nom, ces épouses qui changent de nom, vous imaginez le changement qu'elles vivent, c'est vraiment un changement identitaire. Et puis même pour nous les époux, tout d'un coup, on hérite de toute une ribambelle de cousins par alliance, d'oncles et de tantes par alliance, de beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents. Ça peut être bien ou pas bien, ça dépend de votre situation. Moi, je suis béni à ce niveau-là, j'ai beaucoup de joie à être entré dans cette belle famille. Mais quand même, c'est pas juste que voilà, on crée quelque chose de nouveau, c'est vraiment qu'on va tout d'un coup appartenir à une nouvelle entité. Et si les relations avec votre belle famille se passent bien, sans doute que vous sentez un vrai appui, une vraie aide, de belles relations que vous pouvez vivre dans cette belle famille. Et même jusqu'à notre langue a inventé des mots pour décrire ce type de relations, en parlant justement des beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents. On a même des mots dans notre langue qui décrivent ces relations-là. Ce n'est pas juste la maman ou le papa de mon épouse, c'est vraiment ma belle-mère ou mon beau-père. Le fait de devenir membre d'une famille, c'est quelque chose d'hyper intime, d'hyper identitaire. Et nous sommes membres de la famille de Dieu. Quelle grâce, quel bénéfice. Et puis la troisième image, c'est l'image de l'édifice. Et encore plus fort que ça, c'est l'image du temple. Vous savez, avant la venue de Christ, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait un temple en pierre qui se trouve à Jérusalem. Et puis c'était vraiment le lieu central, le lieu symbolique de la présence de Dieu. Bien sûr, Dieu était présent partout, depuis toujours, il a toujours été présent partout, mais il était symboliquement vraiment présent là. Et puis, tout a changé. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et ce texte nous dit qu'en fait, le temple, c'est plus un édifice en pierre, c'est nous, nous tous, qui faisons partie du peuple de Dieu. Et Dieu réside sur terre d'une certaine manière. Bien sûr, Dieu est toujours omniprésent, il est toujours présent partout. Mais Dieu, d'une certaine manière, réside plus concrètement sur terre parmi son peuple. Ça nous lie, hein. On est tous les uns et les autres membres de la famille de Dieu. Merci d'ailleurs, David, pour le verset que tu as cité dans 1 Corinthiens tout à l'heure, qui montre que en prenant la scène, on manifeste cette unité, on manifeste cette proximité, le fait qu'on a un même esprit, on est un seul corps, une seule famille, un seul peuple, on est les uns et les autres, l'édifice, le temple de Dieu sur terre. Voilà un petit peu ce texte. Je pense qu'avec ça, avec ces trois remarques, on a une vision un peu plus claire de qu'est-ce que nous dit ce texte. C'est le moment de prendre un peu de recul. On se souvient hein, que Paul ne nous parle pas à nous directement, mais il est en train de parler aux personnes d'Éphèse, une église où il y avait des juifs et des non-juifs, il est en train de leur montrer comment ces deux groupes deviennent un en Christ. Et vous avez remarqué que c'est pas juste que le judaïsme continue depuis l'ancienne alliance et puis on amène des personnes à l'intérieur. Il dit que l'un et l'autre sont réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, c'est exactement ce que nous vivons. Tous les uns et les autres. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut s'identifier à ce texte. Ce texte, il nous parle. Parce que nous tous, les uns et les autres, en devenant chrétiens par le sang de Jésus, nous devenons membres de ce corps, membres de cette famille, membres de ce peuple. On devient membres de cet édifice et membres les uns les autres. On est un seul corps, une seule famille, un seul édifice, un seul temple. L'habitation de Dieu sur terre. Et on n'est pas l'habitation de Dieu sur terre chacun pour nous-mêmes. On l'est ensemble. C'est vraiment tous les chrétiens de tous les âges, tous ensemble, que nous formons cette habitation-là. Alors on pourrait se dire, bon, c'est joli, ok, ça c'est une vérité théologique. On devient un peuple parce qu'on est tous sauvés de la même façon. Soit. Mais en fait, ça a des impacts hyper forts, hyper concrets, hyper visibles. Je vous donne juste quelques exemples. Hein. Vous vous rendez compte qu'à Jérusalem, au 1er siècle, les premiers chrétiens, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à vendre tous leurs biens et à tout mettre en commun. Ils partageaient tout et vivaient d'un commun accord. Vous imaginez à quel point ces relations familiales ont pris corps, sont devenues réelles pour eux. Un peu plus tard, toujours au 1er siècle, les églises du pourtour de la Méditerranée ont commencé à envoyer de l'argent à Jérusalem parce que cette première église de Jérusalem a commencé de subir des persécutions. Et ils ont voulu soutenir leurs frères. La plupart, ils n'avaient jamais vu les chrétiens de Jérusalem. Mais ils ont voulu les soutenir et ils ont envoyé de l'argent à des gens qu'ils ne connaissaient pas parce que c'était leurs frères et sœurs. Ils n'étaient pas membres du même peuple. Ils n'étaient pas membres de la même famille. Mais en Christ, ils étaient membres du même peuple et membres de la même famille. Du coup, ils ont soutenu ces gens-là. C'est aussi à cause de cette vérité-là qu'on a lu dans Éphésiens 2. C'est à cause de cette vérité-là qu'on prie pour les chrétiens à l'autre côté du monde, qu'on n'a jamais vu, qu'on verra probablement jamais. Si vous venez ici le lundi soir, régulièrement, on prie pour des chrétiens qui vivent dans des contextes hyper éloignés de nous, mais on se sent proche d'eux. Ce sont nos frères et sœurs. Et on prie pour eux. C'est pour cette raison-là aussi que peut-être si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous rencontrez dans un autre pays un chrétien qui vit dans une autre culture, qui n'a rien à voir avec la vôtre, peut-être même que vos langues maternelles sont différentes. Et pourtant, quand vous êtes avec ces personnes-là, vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous. Vous sentez qu'il y a une proximité inexplicable que vous vivez les uns avec les autres. Ce n'est pas juste une belle pensée, cette chose-là. C'est aussi cette vérité-là qui nous réunit ici. On est des gens qui venons de peut-être, je sais pas, une trentaine de nationalités différentes ce matin. On est des gens qui avons des arrière-plans complètement différents. On a évolué, grandi dans des contextes différents. On a probablement des jobs hyper différents, des âges très différents. Et pourtant, on est tous réunis dans cette salle ce matin. C'est à cause de cette vérité-là. C'est parce que Dieu, par Jésus-Christ, nous a rapprochés, nous a unis. Il a fait de nous des citoyens du même peuple. Il faut qu'on parle de l'accueil maintenant. Hein. J'aurais pu choisir d'autres axes pour parler de l'accueil. Il y a beaucoup de... En fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y a beaucoup d'exhortations à l'hospitalité. Par exemple aussi, il y a un texte très fort dans l'épître de Jacques où Jacques nous exhorte à accueillir dans l'Église chacun, sans faire de distinction. Malgré les différences, il nous exhorte à accueillir chacun. Mais j'ai trouvé que ce texte était particulièrement fondamental. Dans ce texte, on a vraiment la racine, on a le socle sur lequel on peut se baser pour vivre, pour devenir une église accueillante. On est membres les uns des autres. Et même le non-chrétien qui vient dans notre église, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui vient dans notre église, on veut l'accueillir. Parce qu'on souhaite plus que tout qu'il fasse partie de la famille, qu'il fasse partie du peuple. On souhaite vivre avec lui ou avec elle aussi ces relations fortes. On souhaite qu'il découvre pour lui-même Jésus-Christ et qu'il entre dans ce peuple. Il faut qu'on fasse un pas de plus maintenant. on est convaincu de cette réalité, on est convaincu qu'on est unis, on est un peuple, et du coup on doit accueillir les gens en nous-mêmes. Mais il faut qu'on fasse un pas de plus, il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et je vous propose trois applications, trois choses qu'on pourrait mettre en place cette semaine, les semaines suivantes, cette année, ou je ne sais quoi, pour vraiment progresser dans ce domaine de l'accueil. Première application, rendons nos réunions accessibles. Je ne sais pas, peut-être vous êtes là pour la première fois. Alors si vous êtes là pour la première fois, et si quelque chose vous a paru vraiment incompréhensible pendant ce culte, venez me voir ou venez voir un des responsables de l'église et dites-leur, ça franchement, je n'ai pas compris. Et on discutera et on essaiera de changer les choses à l'avenir et puis on vous expliquera comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas si évident, hein. J'ai essayé de réfléchir à ça cette semaine. Moi, personnellement, je fréquente une église depuis plusieurs années et je me rends compte que ce n'est pas si évident de voir qu'est-ce qui est incompréhensible pour des gens qui viennent ici pour la première fois. Peut-être des gens qui viennent d'une autre culture, d'un autre pays, ou même des gens qui ne sont pas chrétiens encore et puis qui veulent découvrir un petit peu le message de la Bible et puis qui viennent ici pour la première fois. Quelles sont les choses un petit peu incompréhensibles? Alors, je vous donne quelques exemples. Là, j'ai réfléchi à des expressions qu'on utilise souvent. Vous verrez, ça peut être un peu drôle. Première expression, premier exemple. On dit souvent, en tant que chrétien, « nous allons lire la parole ». Imaginez le gars qui n'a jamais entendu cette expression, qui débarque là. Il se dit, mais ces gens-là sont fous au point de confondre leur sens. Vous comprenez? Nous allons lire avec nos yeux, nous allons lire la parole avec nos oreilles. Oula. Parfois, on dit aussi, dans nos réunions, on dit, tout le monde connaît, je sais pas, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Vous imaginez un petit peu, probablement que certains d'entre vous n'ont jamais entendu cette histoire de Jonas. Et en fait, c'est pas grave. Vous avez le droit d'être là, même si vous n'avez jamais entendu l'histoire de Jonas. Non, tout le monde ne connaît pas l'histoire de Jonas. Peut-être que c'est votre voisin, Jonas, et vous dites, ok, comment ils connaissent mon voisin? Parfois, on utilise cette expression aussi, chantons au Seigneur. Mais en fait, on est dans une culture où les gens ne chantent pas beaucoup, hein. On n'a pas l'habitude de chanter. Et l'Église a chanté à travers tous les âges, donc c'est une bonne chose de chanter, mais quand même, de venir ici, de se dire, ok, on va chanter, ça peut sembler un petit peu surprenant. Puis alors, au Seigneur, oula, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette chose-là? On est dans un système féodal où il y a un Seigneur, ou que sais-je? Une autre expression, le pardon des péchés. Franchement, on est dans une culture où le pardon est essentiellement vu comme une faiblesse. On ne demande pas trop pardon, hein. Puis alors, des péchés, est-ce qu'il parle de l'arbre, le péché? Est-ce qu'il parle de la pêche? De quoi il s'agit là, hein? Une autre expression qu'on utilise souvent, c'est le salut. Mais en fait, en français moderne, on n'utilise pas le salut pour parler du fait d'être sauvé. C'est pas quelque chose qu'on emploie. On utilise juste salut pour des bonjours. Salut, ça va? Une autre expression, on a souvent tendance à donner les références bibliques, hein. Prenez votre Bible dans Deutéronome 29,5. Alors là, le chrétien, il s'y retrouve. Mais celui qui est jamais rentré dans une église, il se dit, oula, c'est un code barre, c'est quelque chose de compliqué, un numéro de téléphone, qu'est-ce que ça signifie? Ou bien des choses même plus simples, hein. Nous allons prier. On n'est pas dans une culture où les gens ont l'habitude de prier. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, probablement, la prière. En fait, quand on prie, simplement, on parle à Dieu. C'est ça qu'on fait. On parle à Dieu. Et puis après, je passe tous les mots compliqués qu'on aurait pu rajouter, hein. Intercession, rédemption, grâce, péché, et j'en passe. Tout plein de mots qui ne sont pas communs, qui ne sont pas courants. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus utiliser ces mots. La Bible les emploie. On a raison de les utiliser. Mais on veut vraiment faire un effort pour rendre nos réunions accessibles, compréhensibles, pour que les gens qui viennent, bien sûr, une personne qui vient ici pour la première fois ne va pas forcément comprendre tout ce qui est dit, mais qu'elle puisse quand même saisir l'essentiel, qu'elle puisse saisir un certain nombre d'éléments, et on veut progresser par rapport à ça. On veut vivre les uns les autres des réunions accessibles. On veut que la Bible soit compréhensible, on veut que nos chants soient compréhensibles, on veut que... voilà, l'ensemble du déroulement de la réunion soit compréhensible pour chacun. Deuxième application, faisons le premier pas vers les autres. parfois on a l'impression que bah voilà, on vient au culte, c'est chouette, on va passer un bon moment avec des gens qu'on apprécie. Mais en fait, c'est à nous d'être accueillants. C'est pas les personnes qui arrivent qui doivent se faire une place. C'est à nous d'être accueillants. Quelqu'un nous a accueillis quand on est venu pour la première fois. C'est à nous d'être accueillants. Alors faisons le premier pas vers les autres. Et là, bah, ça engage chacun, chacune. Si vous êtes habitué à la vie de cette église, vous êtes concerné. Soyons accueillants. Alors, j'aimerais quand même aller un peu plus loin. Hein. Première chose, on vous propose un petit changement dans notre manière de vivre le culte. On vous propose de ne plus commencer le culte à 10h, mais de commencer le culte à 9h30. Vous êtes d'accord avec ça? Franchement, c'est pas la mer à boire, hein, venir une demi-heure plus tôt. Mais en fait, la partie formelle du culte ne va pas changer. Hein. On va toujours commencer notre culte, on va dire d'un point de vue formel, à 10h. Mais ce qu'on vous propose, c'est de venir à 9h30, vraiment de venir juste prendre un café avec des gens, de venir discuter, de venir vivre cette communion fraternelle et puis de pouvoir aussi accueillir les nouvelles personnes. Et ce sera vraiment le culte. C'est pas juste l'avant-culte, c'est vraiment le culte. On croit que la communion fraternelle et l'accueil des personnes fait partie intégrante du culte. C'est pour ça qu'on dit que notre culte va commencer à 9h30. Et puis l'autre chose que je vous propose, c'est une petite règle entre nous. Après le culte, prenons le temps d'aller discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que c'est tentant. On a envie d'aller vers les gens qu'on connaît parce que c'est plus rassurant. Hein. On a un peu peur d'aller vers les gens qu'on ne connaît pas. Mais vraiment, si on adopte cette règle que bah voilà, chaque dimanche, après le culte, la première personne avec laquelle on va parler, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on connaît peu. Et puis si on n'a pas, bah, tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'on connaît bien toutes les personnes. Mais prenons le temps pour discuter avec des gens. C'est comme ça que les gens vont se sentir accueillis. Ce serait triste que des gens viennent dans notre église et qu'ils aient l'occasion de parler à personne. Finalement, dernière application, investissons-nous dans la vie des personnes. Parce que juste accueillir le dimanche matin, c'est bien, mais franchement, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on s'investisse vraiment. Et vous savez comment on fait pour s'investir vraiment ? Il faut en fait devenir des amis. Il faut qu'on devienne sincèrement des amis les uns avec les autres. Parce qu'avec des amis, les choses deviennent naturelles. Ce n'est pas juste en se forçant, en disant « voilà, je vais l'appeler aujourd'hui, je vais lui envoyer un message aujourd'hui ». Ce n'est pas en se forçant que les choses vont bien se passer, c'est en devenant vraiment des amis. Alors, vous pouvez vous dire « ok, celui-là ou celle-là, j'ai envie qu'on développe une relation d'amitié ensemble ». Peut-être que la relation d'amitié, elle va pas tout de suite voir le jour. Peut-être qu'il faudra un peu de temps, peut-être qu'il faudra prier pour ça, demander à Dieu de vous aider à aimer cette personne. Mais ça vaut la peine, c'est important. Alors après, il ne faut pas le faire avec 100 personnes, parce que ça ne va pas fonctionner. Ça vaut la peine de le faire avec 2 ou 3 personnes de l'Assemblée. Vous dites, ok, celui-là et celle-là, ou je ne sais quoi, je vais m'investir plus intentionnellement avec elle, avec ces personnes. Je vais peut-être, je ne sais pas, une fois aller prendre un café ou bien lui envoyer un message sur WhatsApp ou par SMS ou je ne sais pas quoi, ou lui téléphoner ou si vous êtes encore à l'ancienne, lui envoyer une carte postale quand je pars en vacances ou que sais-je. Mais vraiment, prenons ce temps de nous investir dans la vie de ces personnes. Voilà ces 3 applications que je nous propose, moi le premier, hein, pour cette semaine, mais surtout pour cette année, même les années suivantes, qu'on puisse vraiment devenir une église accueillante. Toujours plus. On est, d'une certaine façon, déjà une église accueillante, mais on veut le devenir toujours plus. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait ce miracle. Parce que Christ, d'éloignés que nous étions, nous a rapprochés. Parce que Christ, alors que nous étions opposés les uns aux autres, nous a unis. Parce que Christ, alors que nous étions étrangers, a fait de nous des concitoyens des saints. Pas parce qu'on est des gens bien, mais parce que Jésus a fait ça, il a fait ce miracle pour nous, il a donné sa vie pour que nous devenions membres de ce peuple, pour que nous devenions membres de cette famille. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as justifiés. Merci parce que par le sang que tu as versé à la croix, on l'a vu tout à l'heure avec la Sainte Cène, par le sang que tu as versé sur la croix, tu nous permets de rentrer dans ce peuple, dans cette famille. Nous sommes vus comme saints, juste, et nous devenons cet édifice, ce temple de Dieu. Merci pour ce privilège. Aide-nous à le vivre concrètement. Aide-nous à le vivre, nous, Église Action Biblique de la Servette. Aide-nous à être une église accueillante, à être une église où les gens aiment venir, où les gens ont du plaisir à venir. Aide-nous à être vraiment des amis, des frères et sœurs, les uns avec les autres. Aide-nous à être accessibles. Aide-nous à faire le premier pas vers les autres. Transforme mon cœur, transforme nos cœurs pour que ce miracle puisse avoir lieu dans notre Église. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.